à Tire-d'Aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mallaire en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette troisième chronique, Frédéric Mallaire nous parle des oiseaux hivernants. En cette saison froide, viennent s'ajouter aux populations déjà présentes en France des espèces venues d'ailleurs et notamment du nord de l'Europe. Les populations changent, bougent et il est d'une grande utilité de récolter des données pour voir ces populations évoluer dans le temps et dans l'espace. Puisque complémentaires des observations printanières, les données hivernales apportent de nombreux renseignements sur la dynamique des oiseaux. Alors, écoutons tout de suite À Tire-d'Aile, saison 1, épisode 3, Les oiseaux hivernants, une chronique de Frédéric Mallaire de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Bonjour à tous. La douceur a joué des prolongations, mais maintenant l'hiver s'installe vraiment. Et avec lui, un cortège d'espèces d'oiseaux qu'on ne voit pas à la belle saison et qui nous viennent en général de Scandinavie ou de Sibérie. Ces oiseaux viennent profiter de nos parcs et jardins, de nos lacs et étangs, de notre littoral, pour y trouver une nourriture qui leur fait défaut plus au nord. Parmi les premières espèces septentrionales qui nous arrivent en automne, il y a deux espèces de grives. La grive Movis et la grive Litorne. Elles apprécient les baies et autres petits fruits comme ceux du houx ou des lifs, mais aussi les pommes et poires tombées au sol dans les vergers. Le pinson du Nord et le tarin des zones sont de la même famille que le pinson habituel et le chardonneret et apprécient plutôt les graines et les petits fruits secs, comme ceux du chardon et des carottes sauvages de nos friches ou ceux du hêtre et du charme de nos forêts. Certaines années, on voit arriver des espèces inhabituelles. La plus spectaculaire est sans doute le jaseur boréal, un oiseau de la taïga scandinave et sibérienne, de la taille d'une grive, avec une huppe et un très joli plumage soyeux. Il arrive certaines années en afflux spectaculaire jusque chez nous. Il recherche lui aussi les baies et petits fruits, en particulier ceux du gui et de l'aubépine. Ces apparitions sont tellement spectaculaires et rares qu'elles ont souvent pris la signification de présage, hélas le plus souvent malheureux. Il est appelé Pestvogel en néerlandais, l'oiseau de la peste, de l'époque où les épidémies de cette maladie faisaient des ravages dans la population. Il est aussi censé annoncer les guerres, et effectivement, il y a eu des afflux en 1870 et en 1913. Cependant, la dernière grosse arrivée de jaseurs a eu lieu chez nous en 2004, sans provoquer de catastrophe particulière. Des espèces plus banales font aussi ce genre de mouvement. Cette année, on assiste à une arrivée massive de mésanges bleus et de roitelets huppés. Alors pourquoi de tels afflux ? En général, cela se produit quand, à une année favorable qui a permis la naissance et la survie de nombreux jeunes, succède une période de disette qui provoque le départ des oiseaux vers d'autres zones plus hospitalières. Le littoral de nos côtes voit lui aussi arriver en hiver des centaines de milliers d'oiseaux, principalement des petits échassiers appelés limicoles. On les trouve surtout sur les plages, profitant des invertébrés qui vivent dans le sable. On peut les voir monter et descendre au gré du mouvement des vagues, profitant surtout de la marée basse. La longueur de leur bec indique à quelle profondeur du sol ils peuvent trouver leur nourriture. Les gravelots, avec leur petit bec, se contentent de la surface du sable ou des paquets d'algues. Les bécassos, avec leur bec effilé, descendent à quelques centimètres de profondeur, alors que les barges et les courlis peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres grâce à leur bec surdimensionné. À marée haute, ils sont souvent contraints de se réfugier dans les prairies humides et les marais d'arrière-dunes, comme certains canards, tels les canards siffleurs. Un autre type de milieu est réputé pour accueillir de nombreux hivernants. Ce sont les zones humides d'eau douce. On en trouve partout en France, depuis les zones d'importance internationale comme la Camargue, la Brenne, la Dombes, les lacs de Champagne et les étangs de Moselle, jusqu'aux petits étangs, tourbières ou prairies inondables qu'on trouve un peu partout. En Île-de-France, les principales zones humides sont situées au nord de Rambouillet, en amont de Montreux ou le long de la Marne, ainsi que dans certaines bases de loisirs ou parcs urbains, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, ou à Jablines, ou à La Courneuve et Villeneuve-la-Garenne. Très souvent, il s'agit d'anciennes gravières converties en étangs. On peut y observer en hiver de nombreux canards ou autres espèces aquatiques qui peuvent venir de tout le nord du continent européen. Ils ont pour nom garou à œil d'or, filigune milouinant, arlepiète ou plongeon à un brin. Mais on peut y voir aussi des oies sauvages de diverses espèces ou des cygnes différents de nos cygnes tuberculés habituels. Ces dernières années, leur nombre diminue de manière marquante, ce qui chagrine les amateurs d'espèces rares. En fait, les effectifs totaux de ces espèces ne diminuent pas forcément. C'est juste que les hivers devenant moins rudes, ils descendent de moins en moins. De fait, beaucoup hivernent maintenant en mer Baltique, privant nos observateurs du plaisir de les voir. Pour suivre les populations globales des espèces aquatiques, on a jugé plus simple de les compter en hiver, car à cette saison, le gros des populations se concentre sur ces zones humides, alors que pour se reproduire, elles vont se disperser dans les pièces d'eau du nord de l'Europe et de la toundra sibérienne. Seulement, pour limiter les doubles comptages, il faut tous compter en même temps. C'est pourquoi on a organisé des comptages coordonnés. Le troisième week-end de janvier, dans tout le Paléarctique, c'est-à-dire l'Europe, une grande partie de l'Asie et une partie de l'Afrique, des dizaines de milliers d'ornithologues, en général bénévoles, se postent sur le bord d'une pièce d'eau pour compter les oiseaux. C'est peut-être l'activité collective coordonnée la plus importante au monde, à part certains événements religieux. La LPO est le coordinateur pour la France de ce comptage. Si vous vous sentez capable d'y participer, il faut quand même connaître les diverses espèces d'oiseaux d'eau, vous pouvez proposer vos services en envoyant un mail à il-de-france@lpo.fr en précisant dans quel secteur de la région vous êtes. D'ici là, vous pouvez vous entraîner à compter.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce « attire d'aile » par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé du rouge-gorge familier, Frédéric Mahler nous parle ce mois-ci d'une espèce d'oiseau que l'on confond souvent avec le goéland et qui est plutôt rieuse.
Puisque je parlais un instant d'oiseaux hivernants, je vais vous parler aujourd'hui d'une espèce qui vient en grand nombre dans notre région, rejoignant ainsi certains individus qui y vivent toute l'année. Je veux parler de la mouette rieuse. Il va déjà falloir s'entendre sur les termes. Qu'appelle-t-on mouette ? En effet, dans notre région, on peut trouver principalement quatre espèces qui sont souvent qualifiées, à tort ou à raison, de mouettes. La mouette rieuse et trois espèces de goélands, dont le plus fréquent est le goéland argenté. Comment les distinguer ? Les trois espèces de goélands sont plus grosses que les mouettes, ont un bec fort et jaune, avec une tache rouge à l'extrémité, et ils ont la tête qui reste blanche toute l'année. La mouette rieuse, en revanche, est plus petite, avec un bec fin et rouge sombre, et à la belle saison, les adultes ont la tête brun chocolat, paraissant noire de loin. En hiver, elles perdent ce capuchon brun et ne gardent qu'une petite tache grise en arrière de l'œil. Contrairement à ce qu'on croit souvent, la mouette rieuse n'est pas spécialement liée au bord de la mer, alors que les goélands, eux, sont réellement d'origine marine. Les mouettes font leur nid en colonie, le plus souvent sur des îlots bas au milieu d'étangs d'eau douce ou saumâtres. En Île-de-France, on connaît ainsi quelques colonies, sur les bords de la Marne, en Bassé, à Saint-Quentin-en-Yvelines, ou plus près de Paris, à Villeneuve-la-Garenne ou Roissy-en-Brie. Elles profitent parfois de radeaux mis à leur disposition ou squattant ceux destinés aux sternes. Elles se nourrissent de petits poissons, mais aussi d'insectes aquatiques ou des invertébrés qu'elles trouvent aussi dans les champs. C'est pourquoi il arrive qu'on trouve des groupes de mouettes qui suivent un tracteur. C'est moins fatigant que de creuser soi-même. Mais en automne, ce sont des milliers de mouettes venues du nord et de l'est de l'Europe qui viennent profiter de la douceur des hivers franciliens. Si on en voit sur les étangs et dans les champs, c'est à ce moment-là qu'on en voit aussi arriver en ville pour profiter de l'îlot de chaleur urbain et de la nourriture abondante laissée à leur disposition par les humains sous forme de déchets divers. La nuit, elles se rassemblent en dortoirs qui peuvent dépasser le millier d'individus sur des barges le long de la Seine ou sur des lacs comme le lac d'Enghien. Mais d'où viennent-elles ? Un petit groupe de passionnés parisiens a décidé de lever le mystère il y a une vingtaine d'années. Comment ? En utilisant une technique classique en ornithologie, le bagage. Cela consiste à placer sur la patte d'un oiseau un anneau métallique portant un numéro unique qui permettra de retrouver son origine quand on l'observera de nouveau. Pour faciliter les contrôles dans la nature, on a mis ensuite au point des bagues de plastique colorées avec un code en gros caractères, lisible facilement aux jumelles ou à la longue vue. Nos passionnés ne se sont pas mis à baguer des mouettes, mais ont voulu lire les bagues des mouettes sur certains bassins parisiens. Ils en ont lu des centaines, ce qui n'était pas simple pour les petites bagues métalliques. Mais quelques miettes de pain judicieusement envoyées permettaient de les attirer pour les photographier de près. Le résultat a dépassé tous leurs espoirs. Pour 120 individus identifiés, ils ont constaté qu'il y a eu au moins 16 pays qui ont envoyé des représentants. Deux paires de pays fournissent les plus gros contingents. Pologne et Tchéquie, d'une part, avec 42 oiseaux sur les 120, devant Belgique-Pays-Bas avec 31 mouettes. On retrouve aussi la Finlande, la Suède, le Bélarus, la Moldavie, en fait presque tous les pays d'Europe centrale et du Nord. Certaines arrivent très vite. Une mouette polonaise baguée comme poussin à la mi-mai a été observée à Paris début juillet. Beaucoup reviennent régulièrement. Une lituanienne avait ses habitudes sur une statue du jardin des Tuileries, alors qu'une danoise est revenue dans ce même jardin au moins 13 années de suite. À la fin de l'hiver, leur départ pour leur pays d'origine se fait de manière assez brutale. Les mouettes disparaissent presque toutes de Paris en 15 jours. À la mi-mars, on n'en voit presque plus. Ce départ correspond en général au moment où elles retrouvent leur capuchon brun. On peut remarquer qu'au même moment, sur les lieux de colonie, elles l'ont presque toutes, alors que sur les lieux d'hivernage, elles ne l'ont pas encore, comme si l'apparition de cette tête sombre sonnait l'heure du départ. En tout cas, c'est le moment où il redevient facile de distinguer une mouette d'un goéland. À bientôt, et d'ici là, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles.